essayons de nous réchauffer par la parole de Dieu. J'introduirai notre méditation par une question. Croyez-vous, frères et sœurs, chers amis, que Dieu est venu à votre rencontre? Le sujet de la méditation se trouve dans la question. Dieu venu à notre rencontre. Alors oui, bien sûr. Et de la façon la plus étonnante, la plus surprenante qui soit, par l'incarnation miraculeuse du Fils de Dieu. Et c'est ça Noël, n'est-ce pas? Habituellement, ce sont toujours les parents qui donnent un nom ou un prénom à leur enfant ou à leurs enfants. Alors on n'imagine pas que ça soit autrement, que quelqu'un d'autre puisse donner un prénom à notre propre enfant. On n'a jamais vu ça. Si. Mais bon, lorsqu'on place sa confiance en Dieu par la foi, on doit toujours considérer quand même que l'enfant que nous avons ou les enfants que nous avons en tant que parents, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ou c'est Dieu qui nous les a donnés si nous en avons plusieurs. Et donc, parce que il est question de Dieu à qui tout appartient, eh bien, il peut décider lui-même de donner un prénom à notre enfant. Il pourrait le faire, n'est-ce pas? Puisque les enfants ne nous appartiennent pas directement. Tout appartient au Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Abraham, son nom a été changé par Dieu lui-même en Abraham. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Et lorsqu'il est question de Jean dans le Nouveau Testament qu'on appelle plus communément Jean-Baptiste, vous rappelez-vous, est-ce Zacharie ou Élisabeth qui a donné le nom de Jean à leur fils? Non, il s'agit de Dieu lui-même par l'intermédiaire de son ange. Et lorsque Dieu intervient de la sorte, c'est très souvent parce que le nom qu'il leur donne correspond à une réalité qui s'inscrit dans un plan salutaire dont Dieu seul a le contrôle. Et j'aimerais que l'on regarde cela dans un premier temps, une première lecture dans Luc chapitre 1er. Alors nous allons voir le cas bien sûr qui nous intéresse en particulier, mais déjà on va prendre le cas de Jean-Baptiste. Donc dans Luc chapitre 1er, c'est parce que Dieu avait un plan particulier pour Jean, qu'on nomme Jean-Baptiste, qui lui a donné ce nom-là. Alors on peut le voir dans Luc chapitre 1er, versets 14 à 17. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. On parle de Jean-Baptiste là. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et que dire maintenant, frères et sœurs, mes amis, du nom de l'enfant dont nous fêtons l'anniversaire en cette période de Noël? Est-ce Marie qui lui a donné son nom. Ou peut-être son père adoptif, Joseph. Non. Dieu a voulu pour cet événement particulier qui est unique en son genre, n'est-ce pas ? Que ce soit lui-même, Dieu lui-même, qui choisisse le nom de son fils, qui venait d'être conçu par la puissance de Dieu en prenant la forme et la nature, la forme humaine et la nature humaine. Alors, on peut regarder cela dans Luc chapitre 1, vous y êtes toujours, verset 31. Et on va voir pourquoi il lui donne ce nom-là. Et voici, en parlant à Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Jésus, c'est en quelque sorte son nom d'homme. Dieu fait homme. Mais la Bible dit aussi, à un autre endroit, qu'en lui réside toute la plénitude de la divinité. Il est donc aussi appelé Christ, pour finalement que son nom puisse donner Jésus-Christ, ou, parce qu'on peut le trouver également dans ce sens, Christ-Jésus. Un double nom qui revêt une signification à la fois humaine et divine. C'est extraordinaire, ça. Christ, c'est le titre du Fils de Dieu, celui que Dieu a choisi d'envoyer, son propre Fils, dans le but d'accomplir une mission particulière. Et puis Jésus, c'est son nom d'homme. Dieu fait homme et dont la mission sur cette terre a été de mourir sur une croix pour sauver le pécheur condamné que je suis et que vous êtes par nature. Tout a donc été accompli il y a déjà un peu plus de 2000 ans, n'est-ce pas ? Et donc, je repose ma question, est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous croyez que c'est pour vous qu'il est venu, qu'il est né et qu'il s'est sacrifié sur cette croix ? Je l'espère, hein, pour la plupart d'entre nous, peut-être pour nous tous ce matin. Alors, cette double signification, je n'ai pas dit ce double nom, je dis cette double signification du nom de notre Seigneur, de notre Sauveur, je peux la retrouver dans Luc chapitre 19. Prenez-le avec moi, peut-être ça va vous étonner. Luc chapitre 19. Alors il s'agit de l'histoire de Zachée, une histoire que j'aime beaucoup parce qu'on se ressemble beaucoup tous les deux. Mais c'est pas le sujet ce matin. Luc chapitre 19, versets 9 et 10. Jésus lui dit à Zachée, hein, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus à Jéricho parle donc là à Zachée. Il est parlé ici, au verset 10, du Fils de l'homme qui est venu. Ça, c'est Christ. Et ensuite, il est dit, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, ce n'est pas le Christ, c'est Jésus. Mais attention! Parce que le nom de Christ et celui de Jésus sont indissociables. C'est comme, on en avait déjà parlé ensemble, la foi et l'obéissance. Deux notions indissociables. Eh bien, Christ et Jésus sont deux noms qui sont indissociables de la personne du Seigneur et de notre Sauveur. Comme d'ailleurs l'action d'une part de venir et celle de chercher et sauver d'autre part. Ces choses sont indissociables. Parce qu'on ne peut pas chercher et sauver si l'on n'est pas choisi pour être envoyé. Et de l'autre côté, on ne peut pas être choisi et envoyé si l'on n'a pas l'intention d'aller chercher et sauver. Vous me suivez toujours ? C'est indissociable. Les deux vont ensemble et c'est pourquoi notre Seigneur et Sauveur s'appelle Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes en présence, oui, du Dieu fait homme, envoyé et venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, à savoir vous et moi. L'incarnation, c'est Dieu fait chair qui vient à ma rencontre pour me délivrer. J'aimerais prendre un exemple frappant, un exemple biblique frappant, donc dans la parole de Dieu, riche en précision, riche en événements et qui préfigure magnifiquement la personne de Jésus-Christ, c'est l'histoire de Joseph. Alors on va aller dans l'Ancien Testament. Donc dans la Genèse, au chapitre 37, et puis on va regarder quelques détails qui vont nous montrer qu'effectivement, à travers cette histoire, on y voit la personne de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Genèse, je vous invite à prendre ce texte avec moi, Genèse chapitre 37, et puis on va lire les 19 premiers versets. Essayez, peut-être, ça peut être un petit peu difficile, mais pendant la lecture, essayez de regarder s'il y a un lien étroit avec la personne et l'œuvre de Jésus-Christ dans ce passage. Et on va essayer d'avancer ensemble juste après la lecture. Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, c'est l'autre nom de Jacob, hein, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. » Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Elle est belle cette histoire, elle n'est pas terminée parce que l'histoire de Joseph, nous la voyons dans un certain nombre de chapitres qui suivent. D'abord, on nous présente les personnages, ou plutôt, le personnage principal, qui est Joseph. Alors, il est présenté comme un jeune berger, mais vous remarquez assez tôt, comme moi, que ce jeune homme est l'objet de liens familiaux bien opposés. D'un côté, il y a son père Jacob qui l'aime. Et de l'autre, il y a ses frères qui le haïssent. Oui, d'un côté, il y a son père Jacob ou Israël qui l'aime plus que tout au monde. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Ça doit nous rappeler, frères et sœurs, chers amis, la relation encore plus forte qui existe entre le Père, Dieu le Père, et Dieu son Fils, son unique. Il avait dit en particulier dans l'évangile de Matthieu, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et puis d'un autre côté, on y voit ses frères qui le haïssent, le jalousent, lui portent envie. Ça, mes amis, c'est l'image de la nature humaine. Pécheresse, c'est l'image du cœur humain révélé au grand jour, dont nous sommes tous porteurs, parce que nous sommes par nature ennemis de Dieu. Éphésiens chapitre 2, peut-être pouvons-nous le lire, résume cette situation. Éphésiens, je vous le lis, chapitre 2 et les tout premiers versets, nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Voilà donc la situation qui est la nôtre, mes amis, et que l'histoire de Joseph met en lumière. En quelque sorte, Joseph rend témoignage de la méchanceté de ses frères. Et on le voit au verset 2, au verset 4 et au verset 11. Vous pourrez relire cette merveilleuse histoire tranquillement à la maison. Mais vous savez, Jésus a dit la même chose. Je vais vous lire deux versets à ce sujet, si vous permettez. Jean chapitre 3, les versets 19 à 20. Je le lis. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et puis, un peu plus loin, dans Jean chapitre 7, un seul verset, le verset 7, qui nous dit « Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » C'est exactement ce que Joseph, en fait, leur a dit à ses frères. Et alors, il s'est tout naturellement attiré leur haine. Plus aucun lien affectif n'existait entre lui et eux. Et même, je dirais que cette haine s'est par la suite encore accentuée, accélérée. Alors, on peut le voir déjà dans le passage que nous venons de lire, puisque Joseph a eu deux songes successifs. L'un se déroulait sur la terre et l'autre se déroulait dans le ciel. Nous l'avons lu tout à l'heure. Et alors, la haine de ses frères s'est encore davantage accentuée contre lui. Quelle belle image encore du Seigneur Jésus-Christ, parce que cette même scène, nous la retrouvons dans Philippiens chapitre 2, et je le lis pour vous, Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. On connaît ce passage, mais peut-être on n'a pas l'habitude de le lier à l'histoire de Joseph. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. En parlant de Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est vrai aussi qu'avant que le rêve de Joseph se réalise, il a dû passer par de terribles souffrances. Il faudrait lire toute l'histoire de cet homme. Mais Jésus-Christ aussi a passé par de terribles souffrances. Joseph n'a fait que dire la vérité. Et on peut comprendre humainement que ses frères, réagissant négativement à de telles affirmations, eh bien, lui en ont voulu jusqu'au bout. Mais ça, c'est le cœur humain qui parle et qui réagit avec colère. Et dans ces conditions, chers amis, rien ne pourra les faire revenir à de meilleurs sentiments. Rien de rien. Sinon, l'amour et le pardon de leur jeune frère parti plus tard à leur rencontre pour leur témoigner son amour et son pardon. Parce que c'est ça l'histoire de Joseph. C'est ça l'histoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En effet, les événements vont se succéder. Et alors que ses frères sont partis, son père qu'il aime tant va lui dire au verset 13, nous l'avons lu. Il lui dit, viens, je vais t'envoyer vers tes frères. On a lu ce passage tout à l'heure. Et alors Joseph lui répond, me voici. Elle n'est pas belle, il n'est pas beau ce verset. Parce que c'est celui de notre Seigneur. Le Père l'appelle à lui pour lui dire, voilà, je vais t'envoyer vers le monde. Et le Fils lui répond, me voici. Ce Fils bien-aimé, qui quelques versets plus haut se voyait souverain, je parle de Joseph, n'en demeurait pas moins soumis à son Père pour lui obéir. Et l'évangile de Jean au chapitre 6 nous présente le même tableau s'agissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors je le lis également, Jean chapitre 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Jacob envoya donc Joseph à leur rencontre. Et même si dans un premier temps, eh bien ses frères le haïssent et le laissent pour demi-mort, l'histoire montre que Joseph a fini par aller les chercher pour les attirer à lui et leur faire comprendre son amour, leur faire comprendre que malgré tout ce qu'ils ont pu lui faire, et à leur haine, l'avoir jeté dans la citerne, l'avoir vendu, etc., il leur avait pardonné complètement. Et voilà le résultat. Joseph va l'exprimer dans Genèse chapitre 45, versets 7 et 8. Et il faut qu'on le lise. C'est la fin de l'histoire, quasiment, de cet homme. La relation entre Joseph et ses frères, initialement rompue par le mal, est désormais restaurée par l'amour et le pardon qu'il leur a accordé. Joseph va l'exprimer au verset 7 et 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. L'attitude, l'engagement, à ce moment-là, vaut souvent mieux que tous les mots, frères et sœurs, je pense, hein, tous les mots prononcés, qui vont montrer par là que tout a bel et bien été pardonné, nous le voyons au verset 14 et 15. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. C'est Joseph envoyé par son père qui est allé chercher ses frères et qui, par son témoignage d'amour pour eux, a fait fondre leur cœur de pierre pour que la réconciliation soit possible, ait eu lieu et soit même totale. Frères et sœurs, chers amis, Noël, c'est ça. C'est Dieu en Jésus-Christ qui vient à ma rencontre. Noël, c'est le don de Dieu, manifesté dans un premier temps par l'incarnation de son Fils bien-aimé, dont nous fêtons l'anniversaire dans cette période particulière. Ainsi, il est venu chercher et par la croix sauver ce qui était perdu. Il nous a prouvé son amour et nous a accordé son pardon. Les frères de Joseph, plus d'une fois, ont voulu lui offrir des présents. Mais Dieu ne veut pas de mes présents. Il veut au contraire que je lui avoue ma rébellion et que je reçoive gratuitement par la foi le pardon qu'il m'offre. C'est cela qu'il veut. Ce n'est pas me montrer sur un autre jour que celui-là. Parce que si Jésus s'est incarné, si Jésus est né, c'était pour donner sa vie et il l'a fait. Son sang a coulé pour m'offrir son pardon à tout jamais. Est-ce que, Frères et sœurs, chers amis, nous le croyons. Avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Comme à Zachée, c'était notre premier texte, il vous dit et il me dit ce matin ceci. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Luc chapitre 19, verset 5. Jésus parlait à Zachée. Mais Jésus parle à mon cœur aussi ce matin. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors, qui allons-nous inviter à midi? Qui allons-nous inviter cet après-midi à la maison? Qui allons-nous inviter ce soir, peut-être, également? Alors, vous qui ne le connaissez pas, Jésus frappe à votre porte. À la porte, pas de votre maison, à la porte de votre cœur ce matin. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, et c'est encore vrai aujourd'hui, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Alors, si quelqu'un entend sa voix ce matin, répondez à son appel par la foi. Répondez-lui. Il vous appelle. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui se repent et croit en Jésus-Christ. Ces deux mots en un, et nous l'avons compris, je l'espère maintenant, qui nous rappellent qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, vous et moi. Alors, c'est ma conclusion. Puissions-nous entendre Jésus me dire, comme à Zachée, suite à la réponse de ma foi à l'appel de Jésus. Oui, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors, quel bonheur, mes amis, quelle joie, quelle paix aussi de se savoir réconcilié avec son Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est pour ça que nous fêtons Noël, hein. C'est ça Noël. Dieu vient à ma rencontre. Que Dieu nous bénisse pleinement en lui, frères et sœurs, chers amis. Prions ensemble. Béni sois-tu encore, notre Dieu, parce que tu as laissé ta gloire dans le ciel pour venir jusqu'à nous, à notre rencontre, pour offrir ta vie, pour que, en retour de mort que nous étions, nous puissions avoir une vie nouvelle en toi. Béni sois-tu aussi parce que tu n'es pas resté sur cette croix. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es désormais assis à la droite, dans la gloire du Père, à sa droite. Tu intercèdes pour nous. Tu veux notre bien. Tu veux encore sauver aujourd'hui. Et c'est pourquoi tu t'adresses constamment à ton Père pour lui demander que soit tien celui qu'il a prévu de te donner, tous ceux qu'il a prévu de te donner. Nous en faisons partie, nous qui avons, par ta grâce, placé notre confiance et notre foi en toi. Je te prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un en particulier qui, dans cette salle qui ne te connaît pas personnellement, que tu puisses lui faire comprendre ton amour et lui offrir ton pardon. Comme au frère de Joseph, Seigneur, Joseph a pu, par son amour, non pas atténuer, mais faire disparaître leur haine, pour que la réconciliation soit possible. Nous te prions qu'il en soit également ainsi pour celui que tu ou celle que tu veux sauver ce matin. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ce don ineffable que tu nous as donné en Jésus-Christ. Et que nous puissions librement, avec joie, dans la paix, t'inviter dans notre cœur, t'inviter dans nos maisons, dans nos demeures, pour que nos vies soient régies par la tienne, que nous soyons, Seigneur, des enfants qui vivent par ta grâce, et nous t'en prions donc au nom de Jésus-Christ. Amen.